Radio Prague, les informations.
La République tchèque pourrait adopter l'euro en 2012. L'opposition critique le projet de privatisation de la brasserie Budvar. Le gouvernement s'oppose à une proposition de loi sur le référendum. On commence d'abord avec le gouvernement tchèque qui vient d'annoncer avoir donné son feu vert à un amendement destiné à faciliter l'accès aux terres agricoles pour les ressortissants des pays de l'Union européenne. L'amendement supprime notamment la condition actuellement en vigueur d'un séjour de 3 ans dans le pays et exige un simple enregistrement de l'intéressé auprès d'une agence agricole locale. Pour entrer en vigueur, le texte doit encore être approuvé par le Parlement et signé par le président Václav Klaus. La monnaie européenne pourrait donc être introduite en République tchèque en 2012, selon les prévisions du ministère des Finances, c'est-à-dire avec 2 ans de retard par rapport au calendrier prévu au moment de l'entrée du pays dans l'Union européenne. Plus d'informations sur ce sujet, dans un instant, ce sera dans nos faits et événements. L'opposition social-démocrate a critiqué le fait que le gouvernement envisage de privatiser la brasserie nationale Budějovický Budvar. Le principal parti de l'opposition se dit préoccupé par l'avenir de Budvar, qui pourrait se retrouver après sa privatisation dans le groupe du géant américain Anheuser-Busch, avec lequel Budvar livre une féroce bataille juridique dans plusieurs pays du monde pour le droit à la marque déposée Budweiser. Selon les sociodémocrates, le gouvernement actuel devrait s'employer à trouver d'autres ressources financières plutôt que de vendre des sociétés comme Budvar ou Chess, la compagnie d'énergie. L'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne serait jugée positivement par 1 Tchèque sur 3. La moitié de la population soutient le dernier élargissement de l'Europe à la Bulgarie et à la Roumanie. C'est ce qui ressort d'une enquête effectuée en janvier dernier par le Centre de recherche sur l'opinion publique. Toujours d'après ce sondage, seuls 13% des Tchèques s'opposent à l'adhésion de la Croatie à l'Union, alors que l'appartenance de la Turquie et de l'Ukraine à la famille européenne serait vue d'un mauvais œil. Elle a été rejetée par la majorité des personnes interrogées. Le gouvernement s'est opposé à l'adoption d'une loi sur le référendum général, une loi proposée par le Parti communiste. Cette loi permettrait aux Tchèques de se prononcer sur des questions ayant trait à la politique intérieure et étrangère du pays, par exemple sur l'implantation de la base antimissile américaine sur le territoire tchèque, implantation à laquelle le Parti communiste est par ailleurs vigoureusement opposé. Le cardinal Miloslav Vlk, archevêque de Prague, a annoncé son départ à la retraite. Le 19 mai prochain, il fêtera son 75e anniversaire, un âge qui l'oblige à quitter ses fonctions. Le pape décidera d'accepter ou non ma démission, a déclaré le cardinal. Du sport avec du volley, les Français de Tours se sont qualifiés mercredi pour le 2e tour des play-offs de la Ligue des Champions, en battant au forceps les Tchèques d'Ostrava 3-1. On termine avec la météo, un ciel partiellement dégagé et des températures maximales comprises entre 5 et 9 degrés sont prévues pour vendredi, le jour de fête des Svatopluk en République tchèque. C'était Alexis Rosenzweig pour le bulletin d'information. Dans un instant, vous retrouvez les faits et événements et la suite du programme en français sur Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Merci d'être avec nous et tout de suite les titres de ce tour d'horizon de l'actualité. Les Tchèques devraient payer en euros d'ici à 5 ans, soit 2 ans plus tard que prévu. Nous vous en dirons plus dans un instant. Autre thème, à la une, le litige qui oppose la ministre sans portefeuille chargée des minorités, Jamila Stehlikova, et le ministre de l'aménagement du territoire, Jiří Čunek, sur la solution d'un problème rom. À l'occasion de la première ce jeudi à l'Opéra d'État de Prague de 2 œuvres lyriques de Francis Poulenc, nous vous proposons une interview avec le chef d'orchestre français Guillaume Tournière. Que sera la présence et les ambitions tchèques au championnat du monde de ski nordique qui s'ouvre à Sapporo? Nous vous le dirons si vous restez avec nous. Nous terminerons par la visite d'un passage souterrain situé au-dessous de la rue Pajiska, au cœur historique de Prague. Très bonne écoute à toutes et à tous. C'est mercredi que le groupe national de coordination pour l'introduction de l'euro en a décidé. Les Tchèques ne commenceront à payer en euros qu'à compter de 2012. Plus d'informations avec Alain Slivinski.
À l'origine, la République tchèque planifiait l'entrée dans la zone euro pour 2010. Il n'en est plus question, car son économie doit faire face à un important obstacle, un déficit trop élevé des finances publiques. Pour cela, le groupe national de coordination pour l'introduction de l'euro, composé de tous les représentants des secteurs intéressés, en premier lieu Česká národní banka, Banque nationale tchèque, et le ministère des Finances a adopté le plan national d'introduction de l'euro qui respecte rigoureusement les critères de Maastricht, ces derniers étant pourtant très critiqués. D'après la Banque nationale, il ne s'agit pas seulement du déficit des finances publiques qui dépasse largement les 3% indispensables pour l'adoption de l'euro, mais aussi du taux d'inflation qui devrait être inférieur à 3% aussi. La Banque critique sévèrement ces critères, car ils ont été fixés il y a 15 ans, dans une situation économique tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. En plus de cela, les anciens membres de l'Union européenne, eux-mêmes, ne respectent aucunement ces critères. Que préconise le plan national de l'introduction de l'euro en Tchéquie? Surtout la préparation des citoyens et des différents secteurs de l'économie à cette révolution. Par exemple, pendant combien de temps les prix seront indiqués en couronne et en euros? Les commerçants devront indiquer les prix dans les deux monnaies 5 mois avant l'introduction de l'euro et 1 an après. Il fixe aussi les détails d'utilisation et de change de la couronne tchèque. On pourra ainsi encore payer en couronne pendant 2 semaines après l'introduction de l'euro. Les billets et les pièces de l'ancienne monnaie tchèque pourront être changés dans les banques commerciales pendant 6 mois, après l'adoption de la monnaie européenne. La Banque nationale tchèque, elle, acceptera la monnaie tchèque encore pendant 5 ans. Les différents ministères peuvent encore présenter leurs observations et suggestions. Le plan national d'introduction de l'euro devrait être présenté au gouvernement d'ici à la fin du mois de mars, pour être publié après et mis à la disposition de l'opinion publique. Il semble donc que les Tchèques seront parmi les derniers nouveaux membres de l'Union européenne à payer en euros, car les autres pays, en dehors de la Bulgarie et la Roumanie, comptent adopter la monnaie européenne plus tôt.
La ministre sans portefeuille chargée des minorités, Jamila Stelikova, est sous le feu des critiques du cabinet. Au début de la semaine, elle a proposé que le gouvernement débloque 1,5 million de couronnes pour aider les Roms de Vsetín, ville de Moravie du Nord, déménagée pour incapacité de paiement de loyer hors leur ville. La ministre a même comparé le déménagement forcé au transfert d'après-guerre des Allemands. En octobre dernier, près de 120 Roms étaient déménagés d'un immeuble délabré au centre de Vsetín sur décision de l'ancien maire Jiří Čunek, actuel ministre de l'aménagement du territoire. Une partie d'entre eux vers un centre d'hébergement improvisé aux abords de la ville, d'autres vers des villages situés dans d'autres régions. La collecte proposée par la ministre devrait les aider à réparer les logements qui ne sont pas en bon état. Or, selon Jiří Čunek, certaines familles ont déjà reçu les prêts destinés aux réparations. L'idée d'une collecte organisée par le gouvernement a été rejetée par le chef des finances, Miroslav Kalousek. Comme il a indiqué, les règles budgétaires ne permettent pas de débloquer une dotation gouvernementale à des fins privées. Jamila Stelikova a donc opté pour une collecte privée et espère trouver un soutien auprès de la charité catholique d'Olomouc. La charité archidiocésaine qui va probablement organiser cette collecte l'accueille comme très utile et il n'est pas exclu qu'elle sera organisée à une échelle plus large pour un nombre plus grand de familles roms.
Velmi potřebný a spíš ta sbírka bude vyhlášena pro více romských rodin.
Jiří Čunek, quant à lui, voit une solution dans des réformes. Les collectes ad hoc ne sont que du folklore qui ne résolvent rien et ne font que générer l'escalade du problème.
Protože jestliže někomu stále dáváte peníze,
car si l'on donne sans cesse de l'argent à quelqu'un, il perdra l'habitude de s'occuper de lui-même, de travailler. Et cela n'aura pour effet que ce qu'on avait vu jusqu'à présent, à savoir que ces personnes vont plonger de plus en plus dans un marasme humain.
Jiří Čunek reste convaincu de la justesse de sa décision sur le déménagement des Roms pour incapacité de paiement de leur loyer. C'est un procédé qui frappe aussi les personnes non-Roms qui en plus doivent quitter le logement sans compensation, souligne-t-il. La mairie de Vsetín le soutient aussi, tout comme d'ailleurs certaines initiatives Roms qui ne sont pas d'accord pour que la ministre cherche de l'argent pour les Roms sans qu'ils fassent eux-mêmes un effort. 8 membres membres du Conseil gouvernemental pour les affaires roms viennent de publier leur prise de position demandant un changement de conception à l'égard de ce problème. Ils ne sont pas d'accord pour que les communes soient débarrassées de leur obligation de s'occuper de leurs citoyens. À leur avis, il faut refaire les programmes nationaux pour les villes et communes pour les motiver à prévenir l'exclusion. Depuis quelques années, l'Opéra d'État de Prague fait connaître au public tchèque le répertoire lyrique français. Ce jeudi a eu lieu la première d'une soirée lyrique consacrée à Francis Poulenc. On présente dans une soirée l'opéra suraliste Les Mamelles de Tirésia, basée sur la célèbre parodie de Guillaume Apollinaire, ainsi que la tragédie lyrique La Voix humaine sur un texte de Jean Cocteau, Václav Richter.
Le spectacle réalisé en coopération avec le Festival de Macerata en Italie a été mis en scène par Pierre Luigi Pizzi et la direction de l'orchestre a été confiée au chef français établi en Suisse, Guillaume Tournière. Ce dernier a évoqué au micro d'Ivan Rummel les circonstances de la création de l'opéra Les Mamelles de Tirésias.
Déjà enfant, il avait eu l'occasion de connaître déjà Apollinaire, de le voir, de lui parler, alors qu'Apollinaire était à la fin de sa vie. Il était lui-même à la première en 1917 de la pièce, donc de la représentation, de la première représentation de la pièce elle-même. Et Poulenc a cherché pendant une vingtaine d'années, après avoir déjà composé presque une cinquantaine de mélodies. Il cherchait depuis longtemps un livret pour une réalisation lyrique. Et c'est au moment les plus dramatiques de la Seconde Guerre mondiale qu'il s'est souvenu que dans un autre moment dramatique de la Première Guerre mondiale, il avait vu cette pièce. Et il l'a relue et ça lui a donné l'envie de retravailler. Et on voit, c'est un Poulenc qui aime le café-concert, qui aime le cabaret et qui a besoin de sortir absolument de cette ambiance tragique de la guerre. Et au travers de textes dadaïstes ou surréalistes, on voit qu'il essaie de s'échapper de son environnement tragique.
Les deux opéras de Poulenc sont donnés à Prague avec une distribution internationale. Il n'était pas facile de trouver une chanteuse pour le rôle de Thérèse, personnage principal de l'opéra Mamelles de Tirésias. Aujourd'hui, Guillaume Tournière se félicite cependant de son choix.
C'est évidemment un rôle, il faut une soprano qui soit un soleil, vraiment sur pas seulement vocal toujours, hein, sur la scène. Et quand nous avons fait cette coproduction, puisque c'est une coproduction déjà avec le Statny Opera il y a une année et demie avec le Festival de Macerata, nous avions fait avec Pierluigi Pizzi plusieurs auditions et à l'occasion d'une de ces auditions, il a rencontré une soprano qui, je dois dire, est vraiment extraordinaire dans le rôle, Elena Rossi, et qui a vraiment cette joie de vivre à donner sur le plateau à tout le monde, qui chante très très bien, qui est très belle, mais qui a ce sourire dont parlait Poulenc. C'est la chose vraiment la plus importante pour le rôle.
Jouer la partition de Francis Poulenc n'est pas sans difficulté pour les musiciens tchèques qui ne sont pas habitués à ce genre de répertoire. Guillaume Tournière se montre pourtant très satisfait de sa collaboration avec les musiciens de l'orchestre de l'Opéra d'État.
Mais je pense qu'ils se débrouillent très bien, ils se sont déjà débrouillés très très bien. Et d'ailleurs, c'est en fait ce qui a fait notre histoire d'amour entre moi et le Statny Opera Praga, c'est la belle collaboration que nous avons eue déjà à l'époque en Italie. C'est un endroit aussi plein de soleil, comme la partition de Poulenc. Pour moi, c'est la quatrième fois que je fais cette production des Mamelles de Tirésias. Donc pas celle-ci, mais que je dirige la partition. Et je dois dire que c'est une musique qui met tout le monde de bonne humeur. C'est un peu comme quand on répète un grand Rossini, le Barbier ou le Turc en Italie ou comme ça. C'est une musique qui est assez électrisante pour les musiciens. Elle est d'une qualité musicale absolue. C'est de la très grande musique de tradition française, parce que Poulenc a été nourri de tous les grands musiciens français. Ça n'était d'ailleurs pas ses musiciens préférés. Lui disait toujours qu'il mettait Bach et Mozart au-dessus de tout. Donc c'est un musicien qui n'avait pas oublié ses grands classiques, qui les admirait, mais qui était de culture terriblement parisienne et qui aimait beaucoup donc la musique légère et la voix, la chanson, le texte. Et la chose qu'il faut qu'on trouve avec les musiciens et qu'ils ont déjà trouvé à l'occasion de Macerata, c'est la musique un peu champagne, pour ce qui est des mamelles de Tirésias. Le rire qui vient soigner les âmes malades. Et ce qu'il faut trouver, c'est cette légèreté qui nous fait oublier un peu le quotidien et la logique qui s'en va, les choses, les situations cocasses qui ne veulent rien dire, mais qui sont juste là pour nous faire sortir du rigide de tous les jours.
Vous êtes toujours sur Radio Prague. Les championnats du monde de ski nordique ont débuté ce jeudi à Sapporo au Japon. Un an après les Jeux olympiques de Turin, les meilleurs spécialistes de ski de fond, de saut à ski et de combiné nordique sont réunis jusqu'au 5 mars. 21 Tchèques prendront part aux différentes épreuves avec des ambitions légitimes de médailles pour certains d'entre eux, et notamment pour la fondeuse Kateřina Neumannová, championne du monde et championne olympique en titre, pour qui ce sera le dernier rendez-vous international. Guillaume Narguet.
Quels que soient les résultats obtenus, une page de l'histoire du sport tchèque se tournera à l'issue de ces mondiaux japonais, puisque la désormais célèbre 4K, comme la surnomment les Tchèques, a annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Mais plus que d'une tournée d'adieu à l'autre bout du monde, c'est d'une sortie de scène en apothéose par la grande porte dont rêve à 34 ans, celle qui a été élue sportive tchèque de l'année 2006. Plus adepte du pas de patineur que de l'alternatif, Neumannová cherchera donc avant tout à conserver son titre de championne du monde acquis il y a 2 ans à Oberstdorf en Allemagne sur 10 km style libre. La distance et le style qui lui conviennent le mieux, comme l'a confirmé vendredi dernier en Chine, sa victoire en Coupe du Monde, la 17e de sa carrière. Toujours en ski de fond, mais chez les hommes cette fois, les deux chefs de file de l'équipe tchèque seront une nouvelle fois Lukáš Bauer et Martin Koukal. Tous deux, pour peu qu'ils soient dans un bon jour, peuvent espérer décrocher un accès-site. Bien que rarement vainqueur, le premier figure cependant souvent aux places d'honneur en Coupe du Monde, tandis que le second, malgré des résultats plus irréguliers, peut se targuer d'un titre de champion du monde obtenu en 2003 dans l'épreuve reine du 50 km style classique et d'une médaille de bronze en sprint par équipe en 2005. Enfin, en saut à ski reste le cas, ou plutôt l'énigme, Jakub Janda, autre espoir de médaille. Vainqueur du classement général de la Coupe du Monde et de la tournée des 4 tremplins la saison dernière, le fantasque sauteur tchèque n'est encore monté sur aucun podium cette année et traverse une période difficile. En manque de confiance et fragile mentalement, Janda ne semble pas en mesure de faire au moins aussi bien qu'à Oberstdorf, où il avait décroché une médaille d'argent sur le petit tremplin et une autre de bronze sur le grand. Mais le Tchèque, toujours très imprévisible, ne peut pas non plus être rayé de la liste des prétendants au titre. Pour peu que le vent, capricieux dans cette région du Japon, vienne enfin à tourner en sa faveur, ses sauts pourraient bien s'allonger des quelques mètres qui lui ont manqué jusqu'à présent et l'ont tenu éloigné des ténors de la discipline. Quant au dernier enjeu pour les Tchèques, il concernera la relève et les résultats de la jeune génération, puisque les prochains mondiaux de ski nordique en 2009 seront organisés à Liberec, en Bohême du Nord.
La ville de Prague est en train de rénover l'un de ses monuments industriels les plus précieux, quelques 610 mètres d'égout situés au-dessous de la rue Pajiska, au cœur historique de la capitale. Une fois reconstruit, ce passage souterrain devrait être, dès 2008, accessible aux touristes. Magdalena Hrozinková.
Plus de 55 millions de couronnes, soit presque 2 millions d'euros, tel sera le coût de cette opération. Le passage souterrain en question, endommagé par les inondations, mène de l'hôtel de ville de la vieille ville de Prague jusqu'au pont Tchekhov Most. Il passe, nous l'avons dit, au-dessous de l'avenue de Paris, Pachiska, très chic et très touristique. Il fait partie d'un système de canalisation ingénieux inventé à la fin du 19e siècle par l'ingénieur britannique William Lindley et comparable à ceux des grandes villes européennes de l'époque. Aujourd'hui encore, ce système fonctionne à merveille. Il a permis par exemple de fermer et restaurer ses plus de 600 mètres d'égout sans perturber la récupération des eaux usées urbaines et sans que l'on soit obligé d'effectuer des travaux en surface. La rénovation terminée, l'ancien égout sera donc accessible au public. Dans le cadre du projet Prague Technique, les visiteurs pourront découvrir également d'autres sites industriels, d'habitude fermés aux touristes, par exemple l'usine de production d'eau potable de Podoli dans le 4e arrondissement, ou encore la salle des machines du funiculaire de Petrine. Rappelons aussi que le musée écotechnique de Prague-Bubenec, aménagé dans l'ancienne usine d'épuration, lancée en 1906 et fermée en 1967, accueille les visiteurs tous les week-ends d'avril à octobre. Il propose des manifestations spéciales, à savoir des visites nocturnes, des sous-sols aux chandelles, des expositions et des programmes pour enfants.
C'était les faits et événements. Merci de les avoir suivis. Et tout de suite, la suite du programme sur Radio Prague.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
L'architecte Jan Kotěra s'est rendu célèbre non seulement par son œuvre, mais également par ses capacités pédagogiques. Professeur à l'École supérieure des arts décoratifs et à l'Académie des arts plastiques, il a formé toute une génération d'architectes des styles cubistes et fonctionnalistes. Et parmi les noms les plus célèbres, citons Josef Gočar, Otakar Novotný, Bohuslav Fuchs, Kamil Rožkot. En commun avec ces jeunes architectes, Jan Kotěra a fondé en 1907 la revue Style. Il faisait valoir le style d'architecture monumentale et grandiose, libéré de toute décoration inutile. Il estimait que l'objectif principal de l'architecture était l'efficacité. Jan Kotěra, créateur d'un style tout à fait nouveau de villas et de maisons familiales, est le fondateur de l'architecture moderne tchèque. Parmi ses œuvres les plus importantes, citons le musée municipal de Hradec Králové, la maison de Peterka sur la place Venceslas, la maison de Leichter dans le quartier de Vinohrady, toutes deux à Prague. La faculté de droit, il faut évidemment pas l'oublier. Jan Kotěra, fils cadet d'un professeur de dessin, est né le 18 décembre 1871 à Brno. Plus tard, ses parents se déplacent dans le nord de la Bohême, à Ústí nad Labem, où Jan fait ses études secondaires au cours complémentaire allemand. Puis son père est nommé directeur de l'école de commerce à Pilsen, ce qui entraîne un autre déplacement de la famille Kotěra. Après avoir terminé ses études à l'école supérieure industrielle allemande à Pilsen, le jeune Jan part pour Prague. Pendant 4 ans, il passe de chantier en chantier, ce qui lui permet d'acquérir de précieuses expériences. Puis, il décide de poursuivre ses études à l'Académie des arts plastiques de Vienne, chez le célèbre Otto Wagner. Le talent et les efforts de Jan Kotěra sont récompensés par le prix romain, qui consiste en l'offre d'un voyage en Italie. À son retour, il est nommé professeur à l'École supérieure des arts décoratifs à Prague. Il est alors âgé de 27 ans. En cette période, il réalise le projet de la salle à manger du grand hôtel Bystrica à Hradec Králové, qui devient le premier symbole de l'architecture moderne en Bohême dans un endroit public. Ensuite, le jeune architecte réalise bien d'autres projets, comme la pierre tombale de l'écrivain Alois Jirásek, la villa de Peterka sur la place Venceslas, la villa de Suharda, etc. En 1907, il se lance dans son grand projet, l'Université de Prague, sur lequel il travaillera jusqu'à son décès prématuré. La jalousie et l'envie coupent les ailes de son rêve. Le seul bâtiment réalisé du projet sera la faculté de droit, et cela après la mort de l'architecte. Parallèlement à ses activités d'architecte, Jan Kotěra s'occupe de l'organisation de l'association des plasticiens, MANES. Ainsi, il met sur pied un grand nombre d'expositions d'artistes tchèques à Saint-Louis, Vienne, Paris, Londres, Munich. L'exposition de l'art tchèque dans le cadre de l'exposition mondiale à Saint-Louis fait partie des plus remarquables de l'architecte Jan Kotěra. Mais il fait également venir des artistes de l'étranger en Bohême, dont Rodin, Münch, Bourdel. Il quitte son poste à l'École des arts décoratifs en 1911, après avoir été nommé professeur de l'Académie des arts plastiques, où il donnera des cours jusqu'à l'année de son décès. Jan Kotiera est décédé le 17 avril 1923, à l'âge de 51 ans. « Destin, tu as brisé les ailes d'un aigle. » Ce sont les paroles prononcées sur la tombe de l'architecte par le sculpteur Jan Sturza, qui s'est suicidé quelques années plus tard.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À la prochaine sur la zone de Radio Prague.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours.